Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Ma question est la suivante. Il y a donc une personne vraiment active dans la prévention du VIH. Nous évoluons dans les associations. Mais une question qui nous revient souvent, dans le milieu rural souvent, quand une personne dans sa famille, cette personne-là est censée sauver une vie, une personne qui est en danger, un enfant qui est en danger par exemple, mais cette personne n'a personnellement se dit qu'elle n'a pas eu des comportements responsables de ces derniers temps-là. On se dit que dans le VIH, il y a une période fenêtre où, pendant laquelle on ne sait pas détecter la personne positivement par rapport au VIH-SIDA. Mais non, en donnant son sang pour sauver la vie d'un enfant, est-ce que réellement il transmet le VIH ou pas? Surtout qu'il y en a encore pendant la période fenêtre. Je veux que l'invité puisse nous éclairer par rapport à ça.
Oui, docteur Yuma.
Oui. Oui, j'ai bien suivi la question et je remercie la madame qui a posé cette question. Effectivement, ici, nous insistons sur un fait qu'en amont du don de sang, il y a toute une procédure qui doit être faite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous sommes en train de faire la sécurité transfusionnelle. Il faut d'abord sécuriser le donneur qui vient donner, qui est une personne qui est en bonne santé, mais qui, au décours de cet acte de don de sang, ne doit pas aussi subir des méfaits. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est-à-dire, le sang qu'il va donner doit être un sang capable de pouvoir effectivement sauver la vie de la personne qui en a besoin. Alors, au-delà du fait qu'on doit faire ce qu'on appelle la sélection médicale, c'est-à-dire on doit voir un peu brièvement les donneurs en se présentant, il faut faire une analyse, il faut regarder ses antécédents, il faut regarder un peu comment il se comporte. On doit faire aussi le counseling. Le counseling, c'est un moment très important, surtout en rapport avec le VIH. C'est-à-dire, c'est au cours de cet entretien-là, qu'on doit veiller, rechercher tous les éléments liés à un comportement à risque qui peut faire en sorte que les donneurs ne puissent pas donner. Parce que les tests que nous faisons, ce sont des tests qui ont des limites. Elle a bien parlé de la période fenêtre. Nous recherchons les anticorps et ces anticorps apparaissent à un certain moment. Donc il faut absolument que les structures qui transfusent, et ça, c'est une partie de séances de formation qu'on donne, doivent veiller à faire cette sélection médicale ainsi que les counseling, c'est-à-dire cet entretien de marquer ouvert avec le donneur, faire en sorte qu'il puisse dire ce qu'il a eu comme comportement, qu'il peut faire en sorte qu'il ne puisse pas donner. Voilà comment je peux répondre à cette question-là.
Est-ce que tous sont prélevés et automatiquement transfusés à une personne qui en demande?
Non, ça c'est... Les transfusions à chaud ont beaucoup de risques. Comme vous savez, quand on prélève le sang, il y a toute une période, quelques heures qui permettent à ce que le sang prélevé, tous les processus de, ça c'est un peu scientifique, des macrophages, c'est-à-dire des cellules qui doivent continuer à faire leur travail, de détruire les différents microbes, parce que, comme vous savez, on ne teste pas tout. Il y a des microbes selon lesquels l'organisme lui-même va continuer à faire son travail, comme il est fait dans l'organisme. Mais le fait de transfuser à chaud a beaucoup de risques. C'est ainsi qu'on évite qu'il y ait la transfusion à chaud. On demande à ce qu'on prélève le sang, qu'on puisse conserver ce sang-là, et puis le transfuser dans des conditions non de stress. Parce que là, quand on le fait à chaud, il y a toujours des risques par rapport non seulement au fait qu'on va biaiser la sélection médicale, mais en plus, le sang qu'on donne directement peut avoir des conséquences sur le malade qui va en bénéficier.
Alors, si je comprends bien, l'hôpital ou bien le médecin à charge de malade remplace le sang qui a été prélevé. En fait, l'hôpital le substitue par un sang qui est déjà testé au niveau de la banque du sang.
Oui, c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est parce que les hôpitaux n'ont pas la capacité de pouvoir organiser des stocks réels pour pouvoir agir en cas de toute demande de sang.
Mm-hmm.
C'est ainsi que s'ils ont vu. C'est comme ça que ça se fait. Donc, en ce qui concerne, on appelle ça les dons de remplacement. En fait, ici, ils ont deux poches dans la banque. Quand quelqu'un a besoin du sang, on lui dit, bon, vous pouvez donner comme ça, nous, on va donner la poche de sang qui est déjà testée.
Oui.
C'est ça parce qu'il n'y a pas d'espace suffisant au niveau des hôpitaux, parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneurs bénévoles de sang. C'est ça la réalité.
Alors, une fois que ce sang est testé et que on constate la présence, par exemple, du VIH SIDA dans le sang, est-ce que la personne auprès de qui on a prélevé ce sang doit être informée de son état sérologique? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a cette counseling qui est fait?
Voilà, c'est ce passé effectivement dans cette étape de counseling là. Non seulement on doit parler avec le donneur de ce qu'a été son comportement pendant un certain nombre de temps, mais aussi on doit lui dire ce qu'on fera de ce temps-là, c'est-à-dire les différents tests qu'on va réaliser sur ce temps. Et puis lui demander de pouvoir accepter les résultats qui en sortira. Et après, on lui donne aussi les alternatives en disant si c'est positif, voilà ce qu'on va faire. Si c'est négatif, voilà ce qu'on va faire. Parce qu'ici, ce qu'on cherche, on cherche à fidéliser les donneurs. Tous les donneurs qui sont négatifs, il faut les garder dans les pipelines pour qu'ils puissent continuer à donner régulièrement tous les 3 mois et aider à reconstituer les stocks. Par contre, si c'est quelqu'un qui a un problème de VIH, aujourd'hui le VIH, ce n'est plus un problème comme c'était dans le temps. On va l'orienter dans une future du CNLS, donc du Programme national de lutte contre le sida, avec les ONG qui font un travail énorme sur le terrain, pour qu'on puisse l'encadrer, non seulement confirmer son état, et puis après, lui donner la possibilité, au cas où il serait éligible pour, par exemple, pour les antirétroviraux, qu'ils soient mis sous antirétroviraux, qu'ils soient disponibles aussi. Voilà.
081-890-63-94, c'est pour les appels.
C'est le rendez-vous signé de Radio Outre-Atlantique. Les chemins détournés et vous offrent d'écouter la descendance reliquée de chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Outre-Atlantique. Le chemin abonné à l'UNESCO et je vous y attends.
Nous avons déjà en ligne Evariste Outeni qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour Evariste.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai quelques préoccupations. La première est la suivante. Pour dire que la personne a le virus de VIH-SIDA, il faut que le virus puisse faire au moins 3 mois dans l'organisme de la personne. Et si prenons par exemple le virus a fait seulement 2 mois ou 1 mois dans l'organisme de la personne, cela est difficile qu'on puisse détecter ça au niveau de laboratoire. Et si dans le cas où on prend le sang de la personne et on transfère à une autre personne, est-ce que la personne sera atteinte? Et ma deuxième préoccupation, parce que ici au niveau rural, on fait seulement l'examen de groupes sanguins et de rhésus. Et j'ai vu quelque part, dans un livre comme ça, on a parlé du problème de sous-groupe. Et si, prenons par exemple, on transfuse à une personne qui a le même groupe et le même rhésus et le sous-groupe différent, qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Et la troisième question est la suivante. Nous avons plusieurs sortes d'anémie. Nous avons anémie hypochrome, normochrome et macrocytaire. Vraiment, je vais seulement demander à M. le médecin, est-ce qu'il peut me donner la différence entre les deux? Parce que je lis ça seulement, je vais seulement savoir ça. Merci.
Merci Evariste. Jacques Moukadi, vous êtes à Matadi, au Bakongo. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Monsieur le journaliste, bonjour l'invité.
Vous avez également une question sur les groupes sanguins.
Oui, moi je voulais savoir, il y a combien de groupes sanguins?
Voilà, donc vous voulez savoir s'il y a combien sortes de groupes sanguins?
Ah oui, je voulais savoir s'il y a combien de groupes sanguins.
Ok, merci beaucoup Jacques et un coucou à tous ceux qui nous suivent à Matadi, docteur Ramazani Yuma. Vous avez suivi les deux interventions. Que répondez-vous à ces intervenants?
Oui, je dois d'abord remercier les intervenants qui viennent de poser des questions, notre ami de Mbandaka et celui de Matadi. Pour notre ami de Mbandaka, j'ai dit par rapport à à cette fenêtre sérologique et nous faisons des... Il y a plusieurs verrous qui sont mis sur pied pour pouvoir limiter ces risques. Pourquoi? Parce que la première des choses que j'ai dit, c'est ça doit être un donneur bénévole. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est forcé. Il doit être volontaire, non rémunéré. C'est-à-dire que ça doit être quelqu'un qui consent de pouvoir donner le sang parce qu'il a eu un bon message. Le message l'a touché en disant, moi je dois faire cette tâche parce qu'il y a des mamans qui meurent, parce qu'il y a des enfants qui meurent. Donc moi, je me porte garant de pouvoir poser cette tâche. Il est d'abord volontaire. Et puis après, le verrou qui suit, c'est la sélection médicale. C'est-à-dire on doit voir les données qui est son état physique général. Parce que cette sélection se fait par un personnel médical formé. Ça doit être un infirmier ou un médecin. Ouais, qui doit voir, de par son état général, c'est quelqu'un qui ne donne pas l'air d'être malade. Et puis après ça, il y a le counseling. C'est-à-dire que c'est là où on doit rechercher le comportement à risque. Il faut arriver, parce que c'est un bénévole, c'est un volontaire, il vient, le mettre, le conditionner de sorte qu'il puisse effectivement dire qu'il a eu un comportement à risque et on le soustrait au don et on lui demande de revenir peut-être 3 mois après pour être sûr que les tests qu'on va faire, on doit vraiment réduire davantage le risque. Et puis après, on passe au test. Et là aussi, l'avantage, c'est que nous faisons le test le plus sensible. C'est-à-dire avec même des risques de pouvoir avoir des faux positifs. Ouais. Et tout ça, ce sont des verrous que nous mettons. Mais je dois dire aussi, le problème, c'est qu'on dit, même chez nous, nous disons, la meilleure transfusion, c'est celle qui n'a pas été administrée. Donc, il n'y a jamais une transfusion à 100% sûre. Donc, la meilleure, c'est celle qui n'a pas été transfusée, qui n'a pas été réalisée. Et donc, pour ce faire, il faut respecter tous ces verrous-là, recruter un donneur bénévole, les sélectionner, faire un bon counseling, les tester, en utilisant les tests qui sont recommandés par le programme, et puis après, on peut arriver à pouvoir transfuser ces temps-là. Alors, par rapport à la deuxième chose, il a parlé des groupes sanguins et sous-groupes. Je réponds aussi à l'autre question. Il y a 25 systèmes de groupes sanguins à peu près aujourd'hui. Autour de 25 systèmes de groupes sanguins. Mais ici, il y a ce qu'on appelle le groupe sanguin majeur. C'est le système ABO Rhésus. C'est-à-dire les groupes qui font que si on ne transfuse pas dans le même groupe, en isogroupe, c'est-à-dire si on ne respecte pas les règles pour les grands systèmes-là, il y a des risques graves d'accidents mortels. Par contre, pour les autres sous-groupes, si on n'arrive pas à les faire, il peut y avoir une immunisation, mais une immunisation qui est faible, qui peut se potentialiser peut-être à plusieurs transfusions au cas où on en ferait vraiment plusieurs. Voilà. C'est ainsi qu'on prend des précautions, par exemple, pour les polytransfusés, c'est-à-dire, par exemple, pour les anémiques FCS, faire en sorte qu'élargir un peu le groupe, c'est-à-dire, à part le groupe ABO, on peut aller dans un autre groupe, au-delà du groupe Rhésus, par exemple, le système KEL aussi, ou le système DIFI selon les cas. Donc, tout ça, c'est pour réduire les risques. Donc, c'est le groupe sanguin majeur ABO Rhésus qui constitue le groupe le plus immunogène, c'est-à-dire, si on transfuse, en n'ayant pas respecté les règles, en fait, il y a des accidents graves qui transfusent. Voilà.
Et puis, alors, il a parlé des anémies.
Il a parlé des anémies. En fait, ça, c'est des notions encore plus compliquées. Ce qu'il faut savoir dans le cas de la transfusion, on apporte aux malades les éléments sanguins dont le malade a besoin. C'est ça le principe. Pour le cas des anémies hémolytiques, c'est-à-dire la personne a des problèmes, il a perdu la majorité de ses globules rouges, il ne peut plus respirer normalement parce qu'il n'y a pas de l'oxygène qui est transporté par ses globules rouges. La transfusion, dans ce cas, va nécessiter à lui apporter des globules rouges supplémentaires. C'est ça, on dit la transfusion de concentré de globules rouges. Si le malade a perdu son plasma, c'est-à-dire que par exemple en cas de brûlure grave, le malade a perdu tous les liquides blancs là qu'on appelle plasma, l'indication ici, on peut lui apporter du plasma. Ou soit, si c'est un malade qui a eu des problèmes de saignement, qui saigne beaucoup parce qu'il n'a pas les facteurs de coagulation, on lui apporte du plasma frais. Et ce plasma apporte le facteur de coagulation qui aide à pouvoir agir sur l'hémostase, c'est-à-dire à colmater la brèche là où ça saigne. C'est comme ça qu'on... Mais tous les autres cas d'anémie sont soignés selon les cas, en fonction de, du type de crise qui est présenté, et c'est le médecin le plus outillé qui va indiquer ces cas. Et il ne les demande pas systématiquement, il demande au cas où il suspecte, selon un tableau clinique approprié, tel ou tel type d'anémie et comment pouvoir agir. Mais la transfusion d'une manière globale, c'est comme ça qu'on réfléchit.
Voilà, vous avez également déjà répondu à la question de Jacques Moukadi qui voulait en avoir internet par rapport à groupe sanguin. Et vous avez dit il y a 25 systèmes majeurs, donc groupe sanguin, mais il est vraiment majeur.
Non, non, pas majeur. Il y a plus ou moins 25 systèmes de groupe sanguin. Donc il y a 4 majeurs, c'est-à-dire les systèmes ABO et RESUS. Ils sont vraiment les systèmes majeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les plus immunosuppressifs. Ils sont plus réactifs au cas où on ne respecte pas la compatibilité en termes de groupes.
Billy Ntamboué, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour Billy.
Bonjour.
Vous avez une préoccupation, une question sur la présence du synthèse en Mbujimayi.
Voilà, je voulais demander à l'invité, parce que deux fois un jour nous sommes passés à l'hôpital, mais dans le centre où nous étions partis, il n'y avait pas le groupe AB qu'on cherchait pour transfuser l'enfant. Alors je voulais demander à l'invité si ici en Mbujimayi, ils ont dans leur programme, ils ont un endroit ou un service bien approprié où ils ont placé, donc ils ont la banque de sang pour que les familles qui des fois se retrouvent devant ce problème-là des groupes vraiment trop compliqués qu'on ne sait pas retrouver, par exemple les groupes AB peuvent comme ça aller sur place pour prendre les sangs afin de sauver la personne dans la CP.
Donc si je comprends bien Billy, vous avez cherché une banque de sang, vous ne l'avez pas trouvé facilement en Mbujimayi.
Oui, pour les groupes AB, c'était vraiment un problème.
Voilà, docteur Yuma.
Oui, effectivement, il y a des groupes qui posent problème. Hein. Par exemple, les groupes AB, c'est parmi les groupes rares. Il y a aussi tous les négatifs, là, par exemple, O négatif, B négatif, A négatif, AB négatif. Alors, dans ce cadre-là, on demande à ce que le centre provincial et même les hôpitaux généraux de référence puissent conserver ces produits sanguins, quelques unités de ces sangs, pour pouvoir parer à des urgences de ces gens. En ce qui concerne Mbujimayi, effectivement, nous avons un centre provincial à Mbujimayi avec toute une équipe bien rodée. Ils ont une banque de sang bien installée à l'hôpital d'Itumba et à laquelle ils peuvent faire recours. C'est question de s'informer. Si vous allez à l'inspection provinciale de la santé, il y a tout un bureau là-bas avec toute une équipe et d'Itumba leur a donné un espace important où ils ont mis des frigos normés pour pouvoir conserver ce sang. Donc c'est question, à mon avis, de pouvoir entrer en contact avec ces structures. Alors, au cas où on n'en trouve pas directement, il y a toute une liste des donneurs connus par rapport à ces groupes qui sont identifiés et auxquels on peut faire recours le moment venu quand vraiment on est en carence. C'est ça la stratégie que nous appliquons à différents niveaux et partout à travers le pays. Il y a une structure en Mbujimayi.
Oui, à un certain moment, docteur, les différents centres nationaux de transfusion sanguine à travers le pays, disons notamment ceux qui sont dans des coins les plus reculés, donc dans des disons fin fond de province, à l'intérieur vraiment de province, en fait, avaient des problèmes de chaîne de froid, si vous voulez, des problèmes de conservation. Est-ce que ces problèmes se posent encore aujourd'hui?
Et je dois vous avouer que nous avons fait des efforts énormes dans ce sens-là. C'est qu'on a déployé suffisamment de frigos à plus de 338 structures hôpitaux généraux de France à travers le pays, des frigos type solaire pour pouvoir court-circuiter tous les problèmes liés à l'énergie. Et ces frigos sont là. Mais le problème avec ces frigos, ils tournent presque à vide parce qu'il n'y a pas de donneurs bénévoles de sang. Surtout dans les villages, les gens ont peur de pouvoir donner le sang. C'est pourquoi nous sommes en train d'influer beaucoup sur la sensibilisation pour que les gens puissent changer de comportement. Parce que le don de sang, ce n'est pas dans notre culture. Pour nous, le sang, c'est quelque chose de magique. Ça véhicule la sorcellerie, ça véhicule le mauvais esprit. Et les gens sont réservés. Mais ils n'en sont conscients que lorsqu'ils se présentent à l'hôpital avec un malade, et c'est là maintenant qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des problèmes, il faut qu'on donne le sang. Donc, on a fait des efforts énormes à travers le pays et je pense que c'est partout. Non seulement on a mis en place des centres provinciaux, mais au niveau des zones de santé, presque dans toutes les provinces, sans exception aucune, on a mis suffisamment de banques de sang dans les hôpitaux généraux de référence. Parce que le problème aussi, je dois en profiter, c'est que la transfusion ne se fait pas n'importe où. Parce qu'ici, l'impression, c'est que dans toutes les petites polycliniques, les établissements médicaux, on cherche à pouvoir administrer la transfusion. Parce que, soit disant, ça fonctionne. Mais tout ça, c'est des problèmes. Donc, la transfusion, c'est une intervention de référence. Quand on doit se présenter dans la salle, on doit se au niveau de l'hôpital. C'est ça le problème.
Voilà, je crois que
les gens refusent d'aller se transfuser dans les petites boutiques là, médicaux, où les gens, boutiques médicales, où les gens cherchent de l'argent, et c'est qu'est-ce le malade, et les libère que lorsqu'on a vidé, saigné sérieusement, voilà.
Nous retenons que cela représente beaucoup de risques, il ne faudrait pas vous hasarder dans des centres de santé de coin de rue, hein, à pouvoir accepter qu'on puisse vous administrer du sang, parfois non testé ou transfusé à chaud, parce que c'est interdit énormément selon les normes de sécurité de transfusion sanguine. Docteur Yuma Ramazani, nous rappelons que vous êtes le directeur national du Centre National de Transfusion Sanguine, CNTS en sigle. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir apporté tout cet éclairage. On se retrouve avec vous très prochainement.
Merci, Gilles. Merci à tous les auditeurs de Radio Capital. Merci.